J'ai le plaisir de vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Card Market. Allez sur cardmarket.com pour acheter directement auprès d'autres joueurs ou de boutiques de jeux des cartes à l'unité au meilleur prix. Bonjour à tous, vous venez de transmettre dans Magic C'est Chic et il est l'heure d'explorer les cavernes oubliées d'Ixalan en compagnie du tout jeune arpenteur Quintorius.
Salutations chers Planeswalkers, on espère que vous avez bien révisé la mythologie d'Ixalan dans les deux superbes vidéos concoctées par Alvar pour ne rien manquer des enjeux de l'exploration des cavernes du plan.
Merci Quentin, on a là cette fois une aventure teintée de nostalgie hein, pour nous vieux briscards puisque nous nous étions rencontrés sur les mers du plan, toi aux côtés d'un Jace amnésique, moi à la tête, en standard, d'une armée de vampires en quête du soleil immortel. Mais ceci est une toute autre histoire que vous pouvez retrouver hein, dans le fait ou fiction appelé l'histoire d'Ixalan.
Nous allons retrouver ici le plan quelques temps après le terrible passage des Phyrexians. Le monde ne semble plus que l'ombre de lui-même, avec des équipages sans capitaine, des conquistadors aux fois divergentes envers leur sainte église, un peuple des rivières plus méfiant que jamais, ainsi qu'un empire du soleil déchiré entre véhémence et désir de paix.
Alors, que vient faire sur ce plan le petit Quintorius, jeune loxodon originaire de Strixhaven et à l'étincelle de Planeswalker fraîchement embrasé? À la fin du conflit contre les envahisseurs biomécaniques, il a mis à contribution ses nouveaux pouvoirs pour explorer le multivers. Ses aventures l'ont bien vite mis sur les traces d'une ancienne civilisation qu'il a surnommée l'Empire de la Pièce, dont je vous ai déjà révélé quelques secrets au cours du mythe d'Ixalan. Ce peuple mystérieux aurait, dans le temps, envahi différents plans. Quand Saïli a trouvé des traces de leur empire sur Ixalan, elle en a informé le Loxodon qui a immédiatement mis cap vers le plan, espérant compléter ses recherches.
En vertu de la richesse de l'histoire proposée pour ce plan, nous avons choisi de séparer cet épisode en deux parties, mais rassurez-vous, les sorties devraient être très rapprochées.
Trêve de bavardage et sortons les torches. Il est temps d'explorer ces cavernes oubliées d'Ixalan. Outre le choc du climat tropical, le plan d'Ixalan a une autre surprise pour Quintorius Kond à son arrivée. Sous la forme d'un, puis deux, puis trois dinosaures. Malgré la frayeur première de l'arpenteur Loxodon, ce comité d'accueil est moins menaçant lorsqu'il est complété de Waïta, une guerrière mandatée par l'ancienne Planeswalker Watley, afin de le guider jusqu'à elle. En chemin, la découverte de l'architecture de l'Empire du Soleil et de ses bas-reliefs surprenants excite la curiosité naturelle de Quint, avant de se heurter à la solennité toute guerrière de Waïta. Heureusement, leur arrivée auprès de Watley empêche le malaise de s'installer durablement, surtout qu'à ses côtés se trouve sa compagne Saïli, et Quintorius connaît très bien l'artificière de Kaladesh.
Panklaza, le premier dinosaure apparu devant Quint à son arrivée, se précipite dans les jambes de la guerrière poétesse. C'est la première fois que le Loxodon rencontre la grande Huetli, l'héroïne de l'Empire du Soleil. Les deux ont à gagner dans cette collaboration, puisque Quintorius trouve une nouvelle piste liée à l'intrigant Empire de la Pièce, tandis que toutes ses connaissances accumulées sur le sujet devraient permettre de déchiffrer un poème antique et pas n'importe lequel. En effet, ce dernier semble être l'énigme ultime, déverrouillant une porte mystérieuse dans les caves d'Ixalan qui mènerait au berceau de l'humanité de ce plan. Mais qui en abriterait aussi les anciens dieux. L'excitation s'empare du trio quand ils découvrent que les indices concordent et qu'ils décodent progressivement le document.
Ils sont à l'aube de découvertes primordiales, tant pour l'histoire du plan que celle du multivers. Mais l'enthousiasme retombe avec l'arrivée d'Inti, cousin de Watley et grand héros de la guerre contre les Phyrexians. Sous couvert de venir saluer la famille, ce dernier surveille les avancées des recherches pour le compte de l'Empereur du Soleil, qui a des attentes plus belliqueuses sur ce qu'abrite la grande porte du poème. Il espère y trouver des armes et de la magie permettant de se débarrasser définitivement des vampires de la Légion du Crépuscule. Après son départ, Watley est désespéré. L'attaque des Phyrexians a placé son horreur de la guerre au-dessus de tout, et voir ainsi son peuple s'orienter vers un nouveau conflit fait naître une angoisse innommable en son sein.
Ils se remettent au travail, et le décryptage du poème est rapidement finalisé grâce à la magie de Quintorius. Ces archéologues de la poésie y apprennent la parole du peuple des Common, et notamment que Chimil, le dieu de ce peuple qui est probablement aussi celui de l'Empire du Soleil, a été enfermé pendant 320 ans, ce qui a entraîné plusieurs cycles de ténèbres. Les tablettes sur lesquelles sont inscrits ces textes portent tous en leur dos des symboles que nos protagonistes mettent en corrélation avec ceux présents sur la mystérieuse porte. Après quelques manipulations, un mécanisme se déclenche et le passage s'ouvre enfin. Accompagnés par Waïta et un autre guerrier, les explorateurs s'engagent dans le tunnel jusqu'à une large pièce où ils découvrent les restes de guerriers affrontant une créature humanoïde en armure, mais aussi gigantesque que Zakama. La porte ouverte, les troupes d'Inti prévenues, la présence de Saïli à ses côtés n'est que peu de réconfort pour Uatli, tant elle redoute désormais ce vers quoi son peuple se dirige.
À un autre endroit du plan, Vito Quirano de Passamonte est à la tête de processions de vampires. Il mène ses confrères de la Légion du Crépuscule vers un lieu saint et souterrain, dans lequel serait retenu Aklazots, le dieu des vampires d'Ixalan. Ce fanatique passe son temps à lire et relire un ouvrage usé à force de consultation, qu'il garde jalousement. Au sein de son équipée, il y a la vampire Amalia, dont c'est la première mission aux grands airs, puisqu'elle a passé ses jeunes années dans une bibliothèque. C'est l'épreuve de la guerre qui l'a poussée à mettre ses talents à contribution avant de devenir cartographe pour la compagnie de la Baie de la Reine, une expédition commerciale visant à ramener des biens précieux d'Ixalan jusqu'à Alta Torrezón. La magie d'Amalia, associée à ses artefacts, peut lui permettre de modifier la topographie des lieux en les redessinant. Et cette première expérience n'est pas sans mésaventure pour elle, puisqu'elle manque de peu de glisser de la selle de son cheval, immédiatement rappelée à l'ordre par Clavinelio, commandant de l'expédition, mais elle est ensuite réconfortée par l'officier Bartolomé del Presidio, un des hauts dignitaires de ce voyage. Elle n'ose cependant pas dire à quiconque que ce qui a failli causer sa chute, c'est la voix sépulcrale qui résonne plusieurs fois dans sa tête, l'enjoignant impérieusement de venir jusqu'à elle.
Leur progression dans la jungle les amène jusqu'à la ruine d'un ancien temple d'Aklazots, où Vito y découvre un artefact sacré, la lance de Tarian, arme autrefois portée par un martyr sacré de la Légion du Crépuscule. Le vampire leur révèle que ce n'est pas un hasard, car l'ouvrage dont il suit les recommandations est précisément le journal de Tarian. Il révèle progressivement que sa foi est dissidente des croyances communes, ainsi que le véritable but de leur quête. Bartholomé, envoyé par Sainte Elenda pour surveiller Vito le fanatique, choisit de ne pas se révéler, mais prend garde à ne rien manquer de la suite des événements. Alors que le groupe pénètre dans le temple et arrive face à une porte bloquée, Vito franchit encore un cap. Affirmant qu'il est guidé par le dieu chauve-souris lui-même, il se lance dans un sacrifice humain qui corrompt les rites sacrés, faisant montre une fois de plus de son hérésie que Bartholomé pointe cette fois à voix haute. Amalia se demande intérieurement si elle épouse vraiment les motivations de cette expédition, les moyens pour y parvenir et les conséquences de tous leurs actes. Mais les résultats sont là, la porte s'ouvre, l'assemblée s'apprête à s'avancer dans les tunnels. Et alors ? La voix résonne à nouveau dans l'esprit d'Amalia, ordonnant de venir jusqu'à elle.
Waïta et la vingtaine de soldats d'Inti, dans le sillage de la guerrière poétesse et de son ami l'éléphant, semblent ridiculement armés quand le seul obstacle dans leurs avancées pour le moment réside dans la poussière des lieux. Au sein de la caverne suivante, ils découvrent néanmoins des traces de lutte et un pigment rosacé inconnu déjà aperçu précédemment dans leur exploration. Ceci se répète dans chaque nouvelle pièce souterraine qu'ils découvrent, toujours plus de corps et de barricades de fortune, jusqu'à ce qu'un gouffre vienne interrompre leur avancée. Une nouvelle énigme que Uatli perçoit dans le poème. Waïta, d'un pas sûr, franchit le précipice en sautant de pierre en pierre avant d'activer un mécanisme qui déclenche le réagencement des rochers en un véritable pont permettant aux troupes de la rejoindre.
Caparocti, né du soleil, qui l'a aidé dans son entreprise, admiratif des compétences de la guerrière, souligne à quel point elle sera un atout précieux dans la guerre future contre les colonisateurs vampires. Lorsqu'ils parviennent à la caverne suivante, s'étendant sur des hectares à perte de vue, Quintorius est aux anges. Ils ont trouvé une immense cité souterraine d'une sophistication qui ne laisse aucun doute sur l'avancée de la civilisation qui en est à l'origine. Ils y trouvent des présences fongiques luminescentes, et, une fois de plus, ce pigment rosacé, caractéristique. Avec Uatli, ils étudient chaque glyphe rencontré, tandis que les troupes d'Inti ramassent les armes laissées ici à l'abandon quand elles sont encore utilisables. Interpellés par un scintillement dans l'air, Quintorius et Waïta arrivent à une fontaine tarie, à côté de laquelle ils trouvent des vêtements étrangement conservés pour le contexte, ainsi qu'un quipu, outil de mesure et de comptabilité, utilisant des perles et des gemmes. De ses vestiges émane un relent magique prononcé.
Prenant le vêtement principal, un poncho, Quintorius convoque l'esprit qui lui est lié, qui met quelque temps à recouvrer sa raison. Nommé Abuelo, il dit dans la précipitation devoir prévenir Oteclan de l'invasion mycoïde et qu'il faut vite en sceller la porte avant de partir s'enfoncer dans l'obscurité. Le Loxodon et Waïta s'élancent dans son sillage, à la grande surprise de la guerrière de l'Empire du Soleil, qui n'avait jamais envisagé poursuivre un fantôme 1000 pieds sous terre, à travers une ville couverte de champignons.
Leur course est soudainement stoppée par un mur couvert de fungus. Mais les choses deviennent nettement plus inquiétantes quand l'obstacle s'anime de lui-même, se révélant être une créature mycoïde titanesque. Waïta lui fait face avec vaillance, jusqu'à l'arrivée d'Inti et de ses troupes, tandis que cet adversaire inépuisable est lui-même rejoint par une douzaine de semblables, mettant le groupe en fâcheuse posture. Ils ne doivent leur survie qu'à l'intervention d'Ondin des héros de l'onde, qui, les dotant de branchies, les pousse à s'enfuir via le fleuve, fuyant un combat qu'ils n'auraient jamais pu gagner. Impossible de garder le contrôle de sa trajectoire sous l'eau, Waïta se laisse porter par les courants, jusqu'à apercevoir une lumière poindre, avant de retrouver le goût de l'air libre et de distinguer d'autres corps émergeant autour d'elle.
Elle aperçoit enfin Quintorius avant de lever les yeux vers une immense cité qui se dresse au milieu des eaux sombres et investie par des milliers d'ondins. Nikanzil, qui leur a permis de s'enfuir, lui apprend que c'est la plus grande congrégation d'ondins jamais réunie sur Ixalan, surpassant même celle de Plongeracine, avant sa destruction par les Phyrexions. Puis elle les guide jusqu'à sa mère, la grande chamane Pashona. Cette dernière a regroupé ses troupes ici en attendant l'ouverture de Matslandli, la grande porte qui mène au berceau de la création du monde. Quintorius est extatique, tant la concentration en histoire de ce lieu s'annonce renversante, sans compter la porte citée par Nikanzil, un artefact hors du commun à n'en pas douter.
Waïta vient tempérer cet enthousiasme qu'elle ne comprend pas, demandant pourquoi Quint veut être celui qui compte cette histoire. Il n'est même pas originaire du plan, il n'a aucune raison d'être porteur des récits des peuples natifs. Dans cet échange, somme toute relativement cordial, on sent toute l'agitation de Waïta d'être en dépossession de son histoire, elle qui a abandonné ses ambitions de poétesse avec l'invasion phyrexiane. L'implication du Loxodon, son dévouement à sa tâche, souligne en fait qu'elle ne sait plus exactement quelle est sa place depuis cette tragédie interplanaire. Malgré le réconfort que tente de lui apporter Uakli en réponse, elle ne peut s'empêcher de se demander si l'ouverture du berceau des dieux sera vraiment une bénédiction ou alors une malédiction.
Depuis quelques jours, la baie du rayon de soleil avait vu s'amenuiser les chargements provenant de ses mines environnantes, jusqu'à interruption totale. Il s'agit de l'un des ports les plus importants de la coalition des Hardis, et le pirate sirène Malcolm Lee avait alors été dépêché sur place par la capitaine Ripley Vance. Accompagné de son fidèle acolyte, le gobelin Bray, et du reste de leur équipage, ils découvrent vite le problème. La ville semi-souterraine de Downtown est désertée, leurs inspections démontrant qu'elle a été attaquée. La seule trace explicite de l'assaut est étrangement un corps sans vie, recouvert d'un curieux amas de champignons et de fungus.
Qui, parmi les ennemis de la coalition, a pu s'en prendre ainsi aux leurs et provoquer la disparition de l'entièreté des habitants de la ville? Leurs recherches avec Bray et ses hommes ne fournissent que peu de réponses, à part une substance grasse et collante sur des haches ou au sol. Une substance semblable à du sang noir et poisseux, mais qui n'en est pas, évidemment. En arrivant aux ascenseurs menant aux grottes d'excavation, tous sont au rez-de-chaussée sauf un, sur le mur duquel, en lettres dégoulinantes, on peut lire
« En bas ».
Le message est clair et peu rassurant. Malcolm envoie un de ses compagnons prévenir les troupes du capitaine Vance, tandis qu'avec Bray et le reste du groupe, ils prennent le chemin vers les entrailles de la Terre.
La descente en ascenseur, tout comme les cavernes, est un enfer personnel pour Malcolm, lui qui aime tant déployer ses ailes de sirène au grand air. À 10, cloîtré dedans, avec son camarade gobelin et leurs troupes, c'est encore pire. Et lorsqu'ils arrivent à un niveau intermédiaire pour prendre un autre monte-charge, Bray les entraîne sur une autre piste dans un tunnel et ils y découvrent sur les murs les mêmes traces visqueuses, semblables à un sang épais de couleur verdâtre, couplées à une odeur étouffante de moisissure. À mesure qu'ils avancent dans le couloir, la prégnance de cette puanteur se fait plus lourde, plus fétide, tandis que la présence fongique sur les murs se concentre jusqu'à prendre un vert presque luisant. Le chemin débouche sur une caverne tapissée de fungus, jonchée d'os, couvert d'une substance noirâtre.
Un mouvement leur apprend qu'ils ne sont pas seuls dans cette caverne. Une carcasse de dinosaures recouverte de champignons s'élève et les attaque. Ce monstre émet un nuage de spores que Malcolm devine immédiatement comme infectieux. Il a déjà affronté moult dinosaures de différentes espèces, de différentes tailles, mais aucun comme celui-là. Les coups d'épée qu'il reçoit ne provoquent rien chez lui, ni douleur, ni réaction. Alors que le raptor morbide ne relâche pas ses assauts, le pirate sirène parvient juste à attraper son camarade gobelin et à partir en évitant le nuage. Bray, avec sa passion pour les longs discours, propose bien un big boom, mais le lieu est trop étroit. Une telle manœuvre menace de blesser l'ensemble de l'équipage, car elle entraînerait forcément un éboulement.
Malcolm se met alors à chanter, et sa voix sirène envoûte tout le monde, pirates et dinosaures. Le temps de tous ceux présents, sauf le sien, se suspend. Il s'avance vers le vélociraptor fongique et le découpe en d'infimes parties, tout en continuant à chanter, avant de rendre ses deux derniers repas d'épuisement et de dégoût, une fois l'ennemi réduit en poussière. Les autres pirates semblent encore hébétés, sauf Bray qui, lui, déplore aussitôt l'absence de trésor. Quand Malcolm les regarde avec plus d'attention, il remarque que les plaies des quelques marins blessés ont déjà guéri, remplacées par de longues estafilades noires. Et quand ils répondent qu'ils vont bien à la sirène Vigie, c'est d'une même voix, presque désincarnée. Définitivement mal à l'aise, Malcolm relance l'exploration pour découvrir ce qu'il est advenu des gens de Downtown. Direction, oh joie, vers le prochain monte-charge.
Le pèlerin Vito a vite su différencier ses vrais soutiens comme Clavileño des membres plus réfractaires de son expédition. Bartholomé, en premier lieu, semble trop attaché aux anciennes coutumes pour comprendre la révolution dont il est porteur. Plus intrigante encore est la cartographe Amalia, qu'il observe régulièrement en train de chuchoter l'air absente, comme si, à sa manière, elle entendait la parole divine d'Aklazots. Une nouvelle porte et un nouveau délicieux sacrifice débouchent sur une immense cave sablée absente du journal de Tarian. À la demande de Vito, les jambes du zélé Clavileño se transforment en fumée avant de s'envoler pour explorer la cave. Cela permet d'indiquer les lieux suffisamment stables pour accueillir l'ensemble des troupes. Mais en pleine traversée, ils sont attaqués par des mantes araignées géantes. L'affrontement est rude. 6 membres de l'expédition et un cheval périssent avalés par les monstres ou les sables mouvants avant que l'assemblée ne parvienne de l'autre côté de la caverne. Là s'ouvre un nouveau tunnel marqué du cinceau d'Aklazots. Ses sacrifices n'auront pas été vains.
À la troisième grande pierre, ornée de glyphes qu'il croise, Amalia ne peut que s'interroger sur la signification de ces immenses stèles. Louange, commémoration ou avertissement? En poursuivant les indications de sa magie de localisation, ils arrivent à une nouvelle caverne traversée de grandes structures naturelles en arches, semblables à des ponts. C'est ici qu'il découvre un être humain aux vêtements plutôt exotiques. Tunique rouge et or, demi-cape dans le dos et de drôles d'épaulières. Poursuivi par une horde déchaînée de gobelins sans poils, il réclame leur aide en les voyant. D'un regard, Vito enjoint ses soldats de l'ignorer, mais Amalia ne peut s'y résoudre. Utilisant sa magie, elle fait disparaître une partie du pont et fait tomber les poursuivants du jeune homme dans le vide. Il les rejoint avec gratitude, sous les yeux scrutateurs de Vito. Bartholomé félicite discrètement Amalia, qui accueille l'étrange garçon. Bien que sa couleur de peau soit semblable aux humains de l'Empire du Soleil, il a les oreilles pointues. Il déclare s'appeler Kellan et venir d'Eldraine. Face aux réticences de leur leader fanatique, Amalia s'engage à prendre en charge le nouveau venu. Et alors que leur marche reprend, elle commence à expliquer aux dix Kellan qui ils sont et l'objectif de leur expédition.
Dans le monte-charge suivant, Malcolm se rend compte que les longues traits noires sur les bras de ses compagnons forment désormais comme des motifs, irradiant faiblement une lumière verte. Certains pirates demeurent trop silencieux, là où ils devraient en temps normal grommeler à cause de la fatigue. La progression de l'ascenseur est interrompue quand ils heurtent quelque chose, un immense champignon qui disparaît sous les coups et dans un nuage de spores. Les pirates qui n'avaient pas été blessés toussent à n'en plus finir en l'inhalant. Alors que les pirates infectés sont toujours plus nombreux et commencent à s'en prendre aux hôtes, Malcolm refuse une fois de plus le « Big Boom » proposé par Bray, qui les tuerait tous dans l'habitacle. Avec son partenaire, leur bandana bien sur le nez et la bouche, ils montent au-dessus de la plateforme, observant les deux pans de leurs compagnons s'affronter. Les infectés, comme le dinosaure, ne semblent pas ressentir la douleur et prennent ainsi le dessus. Dans l'urgence et la peine, ils scient chacun une corde jusqu'à ce que le monte-charge tombe dans le vide, avant d'entreprendre de remonter en volant et escaladant, s'interrogeant sur la nature de l'ennemi qui a transformé leurs joyeux compagnons en marionnette, servile.
Leurs muscles brûlent lorsque les deux compères reprennent enfin leur souffle sur une plateforme intermédiaire. Impossible que toutes ces disparitions à Downtown n'aient rien à voir avec ces traces de boue épaisse et la surprésence des fungus. Mais ils n'étaient plus que deux sur les 10 du départ. Face aux nervures noires striant les murs, le pirate sirène envisage franchement de quitter la mine, mais au moment où il le suggère à son acolyte gobelin, les traces se déplacent jusqu'à former les mots en sécurité. Puis, plus bas. L'espoir est l'arme la plus dangereuse et la plus affûtée, et elle vient de frapper Malcolm pile entre les côtes.
En voyant les deux jeunes gens échanger, Bartholomé ressent de l'admiration pour Amalia et tout ce qu'elle représente. Ses similitudes avec sa propre fille, et plus largement, cette génération née dans un contexte hostile à qui il veut absolument épargner d'y revenir. D'autre part, les positions hérétiques de Vito l'interrogent sur la nature du dieu Aklazots, dont les voix rappellent dangereusement celles de la dissidente Vona la Bouchère, aussi connue sous le nom de l'Antifex. Ces réflexions sont interrompues en même temps que leur convoi par un grand groupe de léonins guerriers qui les encerclent. Ce sont les Malamètes, hommes-chats qui se sont réfugiés sous terre lors du règne expansionniste d'Apazek, premier du nom, à la tête de l'Empire du Soleil. Leur leader, Kudzil, veut les emmener devant leur chef, le souverain Okinek Ao. Avec les épreuves récentes, le groupe vampire préfère les suivre que d'affronter ses puissants guerriers en surnombre et à domicile. Alors que leur groupe est séparé, l'anxiété croît pour Amalia, et Bartholomé voit s'amenuiser les possibilités de fuite en cas d'échec des négociations avec le roi.
Face au souverain Okinek, après quelques échanges, les choses s'enveniment vite, et malgré leur politesse, l'oracle les déclare comme des envahisseurs. Ils sont condamnés. On les guide de force jusqu'à un puits avec du sable à la place de l'eau, dans lequel ils sont envoyés un à un. Bartholomé entend Amalia recommander à Kélan de retenir sa respiration. Tout n'est peut-être pas perdu. Dans sa chute, dans la rivière de sable, la cartographe est assaillie par l'image d'une porte, aux glyphes mystérieuses, incrustée dans la roche des murs d'une caverne, puis par celle d'une sphère brûlant comme le soleil, et bien sûr, la voix sépulcrale l'enjoignant à la rejoindre. Avant de passer du sable à l'eau et de rouvrir les yeux sur une cité immense. Et là, des hordes de ondins qui les encerclent, armés. Une fois de plus, les vampires suivent ceux qui les ont embusqués, tandis qu'Amalia et Kélan sont, malgré la circonstance, soulagés l'un et l'autre de se retrouver en vie.
Ce sera tout pour aujourd'hui, nous laissons deux groupes antagonistes détrempés à la merci des ondins.
Oui, et les braves Malcolm et Bray, hein, quelque part, fidèles à sa première occurrence, ce plan est moins le théâtre d'un simple conflit gentil contre méchant, comme on en a parfois l'habitude, qu'un véritable imbroglio géopolitique aux multiples enjeux.
Une narration comme on les aime. On espère que vous êtes impatients de découvrir la deuxième partie de ce récit avec nous.
Pour ne pas la rater, abonnez-vous bien en activant les notifications si ce n'est pas déjà fait. Et pour nous remercier de notre travail, un petit like ou un commentaire est toujours bienvenu. Et merci à ceux qui poussent leur générosité jusqu'à notre Patreon, disponible en description de vidéo. Aujourd'hui, je tiens à remercier particulièrement Solène, qui me soutient depuis 2019, rien que ça. J'ai donc eu l'immense plaisir de lui envoyer cette semaine un tapis à l'effigie d'Omnat, hein, tel qu'on le voit dans le générique. C'est une nouvelle contrepartie pour mes Patreons, s'ils atteignent le palier de 50€ de donation. Pour en savoir plus, ainsi que pour choper un code de réduction sur un site de tapis de jeu custom, checkez ma récente vidéo « Comment avoir un playmat personnalisé en quelques clics ».
On donnera aussi un code d'AP de votre choix sur Arena à un commentaire tiré au hasard s'il contient le mot-clé « spéléologie ». À la prochaine et d'ici là, prenez garde dans votre exploration des cavernes oubliées d'Ixalan.